mais aujourd'hui En Marche a 0 député. Parmi ces 289, peut-être, deux d'entre elles se trouvent dans le studio. Il s'agit d'Émilie Cariou, qui est candidate dans la Meuse. Bonjour. Et Laetitia Avia, qui est candidate à Paris. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs, Laetitia Avia.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que vraiment cela met en lumière ce souci de cohérence. Alors je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont assez en attente, sont fébriles dans l'attente du nom du Premier ministre. Mais l'essentiel, c'est pas la personne du Premier ministre, mais c'est ce qu'il va porter. L'ensemble des candidats aux législatives pour En Marche s'engagent sur la base d'un contrat avec la nation, sur la base d'un programme. Ce sont les mesures qui sont les plus importantes et qui ont été énoncé avant. Et c'est cela qui crée une cohérence et c'est cela qui fait que sur ces prochaines semaines, à mon sens, il ne devrait pas y avoir de difficultés puisqu'on sait où on va, qu'on a été transparent dès le début.
Frédéric Saïs.
Alors, on entend derrière cette exigence de la cohérence des députés le souhait de ne pas avoir de frondeurs au cours du quinquennat qui ont, entre guillemets, pourri la vie de François Hollande ces 5 dernières années. Mais ce que disent les frondeurs, c'est que une partie des mesures que François Hollande a prises n'étaient pas annoncées pendant la campagne. C'est notamment le cas de la réforme du marché du travail, de la loi El Khomri. Vous, demain, si vous êtes député et que parce que les circonstances changent, au milieu du quinquennat, une nouvelle loi est proposée qui n'était pas prévue, est-ce que vous pourriez ne pas les voter ?
Le contrat avec la nation concerne les éléments qui ont été aujourd'hui exposés et qui sont présents sur le site d'En Marche. Et c'est sur ces éléments-là qu'on s'engage. Pour le reste, encore heureux, il faut sauvegarder notre démocratie et la possibilité pour les députés de contrôler, puisque c'est cela la mission, l'action du gouvernement.
Donc vous vous sentez libre de dire non dans l'avenir si une mesure n'était pas prévue au programme ?
J'espère, pour mission de représenter les Français. Et c'est cela le plus important, bien évidemment.
Et vous, Émilie Cariou, vous êtes candidate aux législatives. Quelle est votre mission ? Pourquoi avez-vous décidé de vous engager en politique ?
Alors, en fait, l'engagement en politique, pour moi, il ne date pas uniquement de mon engagement dans les législatives. C'est vraiment l'aboutissement d'une carrière au service de l'intérêt général, d'abord dans la fonction publique, puis dans les cabinets ministériels. Et aujourd'hui, c'est vraiment la volonté, comme tous les gens qui s'engagent d'ailleurs dans ce mouvement En Marche autour d'Emmanuel Macron, de répondre à un appel auprès de la société civile pour s'engager pour nos concitoyens en politique. Et là, pour moi, aujourd'hui, il est question d'un engagement auprès de mes concitoyens aussi au niveau d'un département qui est en souffrance. Et donc, c'est vraiment la continuité d'un engagement au service de l'intérêt général.
Voilà. Vous venez d'un cabinet ministériel de Gaulle, donc vous êtes à gauche.
Jusqu'à présent, j'ai jamais adhéré à un parti politique. Donc là, pour une fois, je m'engage réellement dans un parti politique, ce qui est une première pour moi. Mais effectivement, l'engagement au sein d'un cabinet de gauche m'a permis de déployer mon action toujours au service de l'équité sociale, de l'équité fiscale, de l'engagement au service de l'intérêt général. Et jusqu'à présent, ça me correspondait bien. Et je pense que aujourd'hui, dans le projet d'Emmanuel Macron, on a cet équilibre entre une société libérale dans laquelle on vit et en même temps un désir de protection des plus faibles, de protection des citoyens, mais aussi d'équité entre les grands et les plus faibles, et ça me correspond bien.
Mais alors, l'équité, c'est un peu comme la loi contre la torture des chatons dont parlait Frédéric Saïs, c'est-à-dire qu'on est tous évidemment favorables à l'équité. Émilie Cariou, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a eu dans la politique de François Hollande qui était jugé insuffisant, que vous auriez pu juger insuffisant et qui justifierait plus de libéralisme? Vous parliez de société libérale. On a la sensation qu'Emmanuel Macron a une vision économique plus libérale que celle de François Hollande.
Je suis pas sûre que ce soit une vision libérale parce que ce qui est sûr, c'est qu'il veut déverrouiller un certain nombre de verrous qui empêchent aujourd'hui aux entreprises de déployer leur activité et de créer de l'emploi. Après, on travaille dans un cadre qui est européen et je pense que là où on peut aller plus vite et plus loin, c'est au niveau de ce cadre européen pour créer ce cadre de jeu, en tous les cas plus unifié en matière sociale et fiscale, qui permette aussi à nos entreprises de ne plus subir de, d'écart de concurrence qui pénalise finalement l'activité en France.
Frédéric Saïs.
Alors Emmanuel Macron a été qualifié du candidat du renouveau entre guillemets de par sa jeunesse. Pourtant, quand on observe les chiffres dans le détail du vote du deuxième tour, il a été davantage élu par les plus de 65 ans. 80% des plus de 65 ans ont voté Emmanuel Macron. Et chez les 18-24 ans, ce taux descend à 55%. Comment vous expliquez ce paradoxe, Laetitia Avia, peut-être?
Je pense que c'est Emmanuel Macron, oui, incarne une jeunesse, mais cela ne veut pas dire que son électorat est un électorat jeune. Je pense que c'est un raccourci. Le plus important, c'est juste que les Français, de manière générale, ont fait confiance à quelqu'un de nouveau pour renouveler la vie politique. C'est ça le sujet.
On écoute l'un de ces militants d'En Marche, car notre reporter Maïwenn Guizhou est allé à la rencontre de ces jeunes qui ont décidé de s'engager la plupart du temps pour la première fois. On écoute Jonathan Blum, il était animateur du comité En Marche de Saint-Cloud.
Moi je suis adhérent depuis plusieurs années dans différents mouvements du centre. J'étais au parti radical de Jean-Louis Borloo. En 2012, il y a donc l'UDI qui a été créé et j'ai été secrétaire général de l'UDI jeune jusqu'à ma démission au moment où nous avions décidé de rejoindre Emmanuel Macron en novembre 2016. Libéral économique, progressiste, c'était le seul candidat à défendre l'ensemble de ces sujets. Il représente le renouveau parce que c'est vrai que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est gouverné par les mêmes personnes, des personnes qui sont engagées en politique et élues depuis les débuts des années 80. Et donc, effectivement, un changement générationnel qui nous a plu. On regarde l'ensemble des partis politiques. Ils n'investissent pas de jeunes ou alors uniquement ceux qui connaissent les bonnes personnes et qui sont amis avec les bonnes personnes. En soi, c'est le premier homme politique à faire entrer dans les sphères du pouvoir la génération Y.
Vous avez cette sensation-là, Émilie Cariou, l'idée qu'il faut du nouveau aujourd'hui en politique parce que quelque chose est bloqué?
Oui, je pense que là, vraiment, c'est le pari que fait Emmanuel Macron, c'est vraiment de miser donc sur une nouvelle classe politique pour impulser un nouveau mouvement. Et c'est vrai, je reconnais que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai, c'est qu'on est aujourd'hui en face d'une classe politique qui a émergé dans les années 80. Et je veux dire, aujourd'hui, il faut donner la parole aussi aux autres. Et c'est un problème de démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cumul des mandats, c'est pas simplement cumuler plusieurs mandats sur une même période, c'est aussi le cumul des mandats dans le temps. Et la démocratie, elle doit vivre avec tous ses citoyens. Et chaque citoyen est parfaitement légitime à se présenter à des élections et à travailler pour l'ensemble de la nation.
Mais alors, il y a quelque chose qui fait très ancienne société, Laetitia Avia, c'est ce culte du chef. Alors, le chef est sympathique, en tout cas, il paraît tel dans les différents reportages qui lui sont consacrés, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un nouveau Bonaparte. Vous trouvez que c'est très nouveau, ça?
Alors c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, hein, et y compris durant la campagne, on a entendu parler de la dimension christique d'un gourou. Moi, je dis souvent, un gourou n'arrive à rassembler des foules qu'en sa présence. Or, le mouvement En Marche a rassemblé énormément de Français, des personnes au sein des comités, et cela vraiment en dehors de la présence d'Emmanuel Macron, parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'on est allé proposer aux Français de se réapproprier l'espace politique, de redevenir des citoyens, de construire les idées. On a des éléments du programme qui viennent précisément des comités locaux.
Vous êtes certaine, parce qu'on a l'impression que ces comités qui ont effectivement mobilisé beaucoup de gens n'ont pas accouché de beaucoup de mesures. Vous avez des exemples précis?
Je peux vous citer la commercialisation des médicaments à l'unité. Ça ne vient absolument pas du travail des experts, ça vient vraiment des propositions de comités locaux.
Frédéric Saïs.
Une question toujours autour de cette notion de renouvellement qui va être clé dans les mois à venir pour voir si Emmanuel Macron a réussi ou pas son pari dans les faits, au-delà des postures et des slogans. Et il y a notamment la notion de société civile qui revient beaucoup dans ce discours. On va oxygéner la vie politique avec des personnes qui n'en viennent pas, qui n'ont pas fait leur carrière en politique. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu l'histoire, c'est une notion qui a été souvent utilisée pour bâtir les gouvernements, surtout juste après les élections. Je pense à Jacques Chirac en 2002, après son élection face à Jean-Marie Le Pen, qui a dit « on va ouvrir les portes, on va faire venir la société civile ». Il y avait Claudie Aigneret, la scientifique, il y avait Francis Maire, chef d'entreprise, qui était placé à la tête de Bercy, donc ce n'était pas un ministère symbolique. Et pourtant, deux ans après, c'en était fini de cette société civile. Tout le monde avait été remplacé, et remplacé par des ministres qui avaient des décennies d'expérience. Autrement dit, est-ce que la société civile, ça peut durer longtemps? Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne sera pas comme les autres fois cette fois-ci?
Émilie Cariou.
Moi, j'ai plutôt confiance en l'avenir, en tous les cas, parce que là, on a on a réussi à regrouper des gens qui sont très motivés et vraiment déterminés, en tous les cas, à s'investir pleinement. Et donc, la société civile, de toute façon, aujourd'hui, les gens qu'on a sont tous issus d'une profession. Mais la différence, c'est que on est dans un processus où on n'a pas passé des années à faire des calculs d'appareils pour se hisser en haut d'un parti, etc. Donc là, on fait le pari de la jeunesse, du renouvellement. C'est la jeunesse, ça ne veut pas dire la jeunesse en âge, mais en tous les cas, la jeunesse en politique, du renouvellement et de l'engagement. Moi, j'ai plutôt confiance en l'avenir.
Mais ce sont des gens qui sont moins à l'aise dans les médias. Francis Maire avait eu des interviews compliquées où il avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire parce que la profession politique impose aussi certains réflexes. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, qu'il y aura une liberté pour les membres de la société civile et qu'ils seront « durables » entre guillemets?
Laetitia Avia.
Et nous sommes moins à l'aise dans les médias, et c'est vrai, mais nous parlons avec sincérité. Et l'important, c'est vraiment de rester ainsi. Il ne s'agit pas de renouveler pour renouveler, il ne s'agit pas juste d'avoir de nouveaux visages et des têtes d'affiche, il s'agit d'avoir des représentants de la nation qui représentent vraiment les Français. C'est cela l'objectif. Samedi, on a eu une réunion avec l'ensemble des investis En Marche. Moi, quand j'ai regardé cet amphithéâtre, quand j'ai regardé ces 430 personnes qui étaient présentes, je voyais vraiment la France. Je voyais la France dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité. Et c'est cela le message. C'est cela le message le plus important.
Il n'y avait pas une spécificité parmi donc ces nombreux visages qui étaient rassemblés. On parle par exemple de bienveillance, c'est une valeur qui a été portée par Emmanuel Macron. Ça se retrouve, ça veut dire quoi?
C'est une notion essentielle. Je pense que beaucoup de nos concitoyens sont épuisés de cette agressivité en politique, de cette malveillance, il faut quand même le dire. Nous sommes bienveillants, c'est-à-dire que nous regardons droit devant nous, nous parlons de notre programme, de ce que nous voulons faire, de cette France positive, progressiste que nous portons. Et c'est ça c'est comme ça que nous allons continuer, en tout cas durant la campagne.
Mais alors pourtant, Manuel Valls a dit hier d'Emmanuel Macron qu'il était méchant. Vous comprenez qu'on puisse dire ça, Laetitia Avia?
C'est étonnant pour quelqu'un qui l'a côtoyé aussi longtemps, mais je commenterai pas cela, mais je trouve ça très, très, très étonnant.
Mais les investitures qui ont été données ou alors refusées à certains, c'est forcément être tranchant. Est-ce qu'on peut être bienveillant en politique?
On est bienveillant à partir du moment où on n'a pas comme stratégie politique d'aller tacler ses adversaires. Et c'est cela le sujet. Ensuite, c'est vrai que les investitures, il y a eu 19 000 candidatures. Donc les investitures ont créé beaucoup de déceptions. Mais c'était ça aussi le jeu. Et c'est un appel universelle aux candidatures pour les législatives. C'est cela qu'il faut retenir. C'est qu'on a donné la possibilité à chacun de représenter la nation. C'est ça qu'il faut retenir.
Émilie Cariou, on a l'impression aussi que le mouvement En Marche est surtout représenté par des jeunes gens aux têtes bien faites. Ce n'est évidemment pas un défaut d'avoir une tête bien faite, mais est-ce que ça ne signifie pas que finalement on est face à des individus qui viennent pour la plupart tous de la même origine et qui auront du mal à représenter la France dans sa diversité?
Non, comme l'a dit Laetitia Avia, on s'est tous réunis samedi et là on a vraiment vu que les gens venaient de plusieurs professions différentes, tous les âges étaient représentés, donc non, je pense que ça représente vraiment la diversité. Mais je voulais rajouter, au-delà de la bienveillance fait écho aussi à quelque chose qui est essentiel dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'avoir foi en la France, en la puissance économique de la France, le rayonnement de la France, et je crois que ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour se démarquer par rapport aux partis politiques qui sont régulièrement dans le déclinisme, la critique, qui à mon sens deviennent quasiment antipatriotiques. Je veux dire, là, de dire non, la France elle est puissante, bien évidemment on peut améliorer des choses et on va le faire et on va retrouver notre place dans le concert international, place que d'ailleurs on n'a pas réellement perdue, contrairement à ce qu'on entend à longueur de médias, c'est faux. La France, ça reste une grande puissance et elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Et ça c'est, je trouve que c'est vraiment de l'état d'esprit aussi de l'engagement d'En Marche.
Frédéric Seyss.
Juste une question pour essayer de se mettre dans la peau des candidates qui sont en face de nous. L'annonce des investitures au niveau de En Marche a été plusieurs fois repoussée. Elle était prévue d'abord pour le printemps, elle a été repoussée après la présidentielle et on n'a toujours pas la liste complète. Quand on est candidate, comme vous l'êtes, et que vous n'avez pas 800 campagnes à votre actif, comment on fait campagne, très simplement, pour des législatives en seulement un mois pour se faire connaître d'un territoire qui est parfois assez vaste, assez peuplé?
Alors, effectivement, là, on a très peu de temps pour faire campagne. La plupart des gens qui ont été investis n'étaient pas des personnalités publiques, c'est-à-dire qu'en fait, elles connaissent leur entourage, mais elles ne sont pas connues, en tous les cas, du grand public. Mmh. Donc, c'est pas évident. Mais donc, on est face à cette contradiction avec des gens qui veulent des nouvelles têtes, qui réclament à longueur de temps un renouvellement de la classe politique française et qui, en même temps, sont un peu décontenancés parce qu'ils se disent « mais on vous connaît pas ». Ben, vous nous connaissez pas, mais vous allez nous connaître. Et puis... après, on va rester, quoi. Donc, on va rester pour travailler. Non, pas... On va pas...
Donc, vous aussi, en fait.
Non, on va pas rester dans le sens d'une classe politique sur 40 ans. Hein. Non, mais on va faire notre travail. Et donc, ça veut dire qu'on sera présent aux côtés de nos concitoyens pour porter leurs préoccupations dans les assemblées du Parlement.
Laetitia Avia.
Oui, on arrive, on est nouveau, mais c'est pas tant une difficulté. Déjà, on a... ce projet de majorité parlementaire qui est essentiel. Et puis surtout, on a des parcours. Tout à l'heure, quand vous disiez que on avait peut-être un profil chacun de... On l'entend, de CSP+. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il faut une capacité à gérer, à manager, à avoir des épaules pour être parlementaire. Mais il faut regarder les parcours de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille très populaire. J'ai un parcours de réussite et c'est le genre de parcours qui parle aussi à beaucoup de personnes.
On écoute un dernier militant en marche au micro de Maïwenn Guizhou.
C'est mon premier engagement militant. J'avais déjà une oreille attentive à des personnalités politiques, on va dire, pour me situer comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais j'avais jamais ressenti un appel à l'engagement comme l'année dernière. Ce qui m'a convaincu dans ses mots, c'est que je trouve qu'il a fait un diagnostic de la France qui est adapté à notre époque. On est en 2017. On n'est pas sur d'idéologie. On est plutôt sur une recherche... d'efficacité dans les mesures. Un de ses leitmotifs, c'était de rendre la liberté à ceux qui font pour leur permettre de développer leurs talents, de se réaliser, mais sans oublier, et ça c'est très important, sans oublier les plus fragiles. Voilà, donc de les former, bien sûr de les responsabiliser en leur expliquant que si on les a formés, il faudrait derrière accepter un travail qui correspond. Mais cette dimension d'attention aux plus fragiles, c'est quelque chose qui m'a aussi touché. Voilà, la liberté et la protection.
Émilie Cariou.
Oui, on entend, on n'est pas dans l'idéologie. En tous les cas, c'est pas forcément une remise en cause des idéologies qui ont guidé notamment les mouvements politiques du XXe siècle. Mais en tous les cas, l'idéologie ne doit pas être un frein à l'action.
Voilà. Parce qu'on peut faire des choses qui ne soient pas idéologiques, parce que bien souvent, l'idéologie, ce sont les idées de l'autre. C'est-à-dire que soi-même, on a toujours l'impression d'agir par pragmatisme, d'agir par souci d'efficacité, tandis que l'autre serait dans l'idéologie.
Je vois pas bien en fait quelle
non,
est la question.
Tout simplement, c'est facile de considérer qu'on n'est pas dans l'idéologie, mais lorsqu'on prône une réforme économique, lorsqu'on prône une manière de changer la société, assez souvent, on a des arrière-pensées qui peuvent être idéologiques.
Oui, tout à fait. Mais
ça n'est pas forcément mal, c'est ça que je voulais dire.
Non, c'est pas mal. Et c'est pour ça. Mais en tous les cas, l'idéologie, elle doit pas être un frein absolu à une action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des problèmes à résoudre, il faut prendre une décision et au-delà, sans considération d'une idéologie. C'est-à-dire qu'on est là pour résoudre les problèmes concrets des Français.
Laetitia Avia.
Au-delà de l'idéologie, ce qu'il y a, ce sont des valeurs progressistes. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que il faut libérer. Il faut libérer l'entrepreneuriat, il faut libérer les territoires, mais il faut toujours aussi que l'État soit ce filet de sécurité. Il faut généraliser les protections, généraliser ces systèmes de solidarité. C'est cela, finalement. Donc oui, il y a une idéologie qu'on retrouve partout. Voilà, c'est cette idée de libération, d'émancipation, en gardant un maximum de protection. C'est cela qui fait le cœur de l'ensemble des mesures que nous allons porter.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron vient d'être intronisé à l'Élysée. Évidemment, il n'y a pas aujourd'hui de décision véritable. Est-ce que vous appréhendez des temps difficiles, des temps plus difficiles, Émilie Cariou, un moment où, comme avec les quinquennats précédents, l'opinion publique est finalement plus rétive?
Oui, bah, tout ça, bon. plus difficile. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a un premier temps qui est la mise en place du gouvernement. Et après, législative va s'amorcer le début du travail du gouvernement. Enfin, le gouvernement va commencer à travailler très, très vite. Je pense que c'est la volonté d'Emmanuel Macron d'aller le plus vite possible sur les mesures les plus symboliques. Après, on est dans une situation où la colère des Français, elle a été entendue, elle est toujours là. Donc, on commence à aborder les problèmes. Difficile. Je pense que oui, on sort d'une période difficile et donc maintenant c'est tout le monde au travail.
Un mot de conclusion, Laetitia Avia.
Ça fait un an que les choses sont difficiles et on sait que cela va continuer. C'est comme ça, on est prêt et ça va être difficile pendant les 5 prochaines années parce qu'on a une responsabilité telle, on est conscient de cela, on doit réussir, on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon le Front National sera présent dans 5 ans.
Merci à toutes les deux qui êtes donc candidates pour les législatives pour le mouvement République en marche.